Avem și luni și marți.
Mai mult.
Voilà. Donc, il y a un proverbe en français qui dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, pour cette raison...
Je peux ajouter une chose. Vous êtes le troisième conférencier qui dit ça.
Ah bon? Oui, mais on se passe le mot. Hein.
C'est connu qu'à Toulouse, on ne mange pas.
Ça a marché quand même.
On est plus ascétique à Toulouse. Donc.
Mais l'autre solution, ce serait de manger d'abord et de parler après, mais c'est d'autres inconvénients. C'est quand on est dans un état de digestion, on n'écoute pas beaucoup plus. Donc on va faire comme ça. Je crois que vous avez l'habitude. C'est limitant. Moi, j'ai déjà une heure moins le quart, donc on fait jusqu'à 1 heure...
1h30.
Oui, ça fait peut-être beaucoup, parce qu'il y a la gap, et puis le baptême est à 14h.
Oui, mais on peut faire la gap, à la limite, on peut la faire dans la sacristie.
Oui, pas bon.
C'est un peu moche, voilà. Mais...
Bon,
on va voir. C'est dommage de couper. On va voir comment ça va.
Tout le monde est très, très attentif. En fait, on demande un très gros effort à l'être humain dans la célébration liturgique. C'est un investissement spirituel, physique, psychique et intellectuel énorme. C'est la participation à la divine liturgie, c'est ce que l'être humain peut faire de plus élevé, parce que c'est une activité qui est du rang de la hauteur angélique. Et par conséquent, ce qui nous est demandé dans la célébration, c'est énorme, mais en même temps, nous savons, par la vénération de la Mère de Dieu, que la Mère de Dieu était au-dessus des anges. Donc ça nous donne la possibilité aussi de participer à la divine liturgie avec toute la puissance de Dieu. Mais c'est vrai que c'est un investissement, même en temps, vous venez. Donc après ça, il faut faire un peu attention. cela dit, c'est bien quand même de réfléchir ensemble pour essayer d'interpréter à partir de la foi chrétienne qui est la nôtre ce que nous vivons et ce que nous essayons de vivre. Je pense que nous essayons d'être chrétiens, c'est pas si facile. Enfin, c'est facile avec la grâce de Dieu, je pense que c'est absolument... Mais comme la grâce de Dieu est chez nous, plus ou moins... développé, nous sommes plus ou moins pénétrés de la grâce du Saint-Esprit, plus ou moins envahis par la grâce, du coup la vie chrétienne est plus ou moins facile. Mais chez les saints, par exemple, c'est très très facile. Les saints sont chrétiens comme ça, sans aucun effort. Mais les pécheurs, comme moi, ben, je suis vraiment de me secouer, de demander à Dieu de l'aide, et surtout dans des questions très concrètes. Alors, ici, on avait, avec Père Roger, une idée de parler ou reparler encore et encore du mystère du Saint Mariage, dont on parle beaucoup dans l'Église et dans l'Église roumaine cette année, parce que sa béatitude, le patriarche Daniel, avec le Saint Synode, ils ont proposé que, font chaque année, on ait quelques thèmes dans l'Église, au moins dans l'Église roumaine, et puis l'année prochaine, on prend un autre thème, d'avoir un petit programme de travail comme ça. Donc l'année dernière, c'était très important, c'était le credo, carrément, bon, pendant un an. Donc, et cette année, sa béatitude et les évêques du Saint-Synode ont proposé qu'on réfléchisse sur le baptême et le mariage, c'est ça? C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. La semaine prochaine, il y a un festival artistique organisé par la métropole roumaine. Ça aura lieu à Paris, mais malheureusement, encore cette année, c'est la première fois qu'on le fait. Et on a pris le thème du mariage, mais du point de vue artistique, qui est assez intéressant, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'artistes, de musiciens, de peintres, de sculpteurs, sont capables de traiter, si je peux dire, ce thème avec bonheur. Et on a également prévu, on a invité un village de Roumanie, de Transylvanie, de Satu Mare, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment... C'est le Mare Mureș, déjà, Satu Mare?
Oui.
Limite, bon. Oui. Un village de Satu Mare qui vient pour... avec les costumes et pour montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on fait un mariage en Roumanie ou comment on faisait un mariage en Roumanie avec quels costumes et quelles coutumes aussi. Ça va être aussi le thème du mariage. Donc ici en paroisse comme chez vous, c'est bien de revenir là-dessus avec, je dirais, toutes les précautions qu'on a à prendre, parce que d'abord tout le monde n'a pas la même expérience, si je peux dire. Les personnes qui sont mariées, les personnes qui souhaiteraient l'être, qui ne le sont pas, les personnes qui pourraient l'être, qui ne le veulent pas, et les personnes qui l'ont été, qui sont en une situation douloureuse de séparation. Enfin, il y a toutes sortes de cas. Donc, à l'avant, je demande pardon, évidemment, si quelquefois j'ai un propos mal inspiré et qui peut peut-être heurter l'un d'entre vous, sachant que la question du mariage, c'est-à-dire de l'amour humain et de la sexualité et de la fécondité dont je voudrais parler, c'est une des questions les plus sensibles, hyper sensibles pour l'être humain en général, et particulièrement à notre époque et particulièrement dans la civilisation où nous vivons tous les jours, qui est une civilisation dans laquelle ce qui a un rapport avec le mariage en général et ce qui a un rapport avec la sexualité en général est très, on va dire, très paradoxal. On ne peut pas émettre de jugement de valeur, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour discerner, c'est quand même assez différent. Le Christ ne nous a pas fait juge du monde, ce n'est pas notre travail, mais il nous a donné le Saint-Esprit pour discerner et aider au salut. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que ce sont des sujets très importants, et très délicats, très, très, très douloureux. Nous sommes tous, en tant que parents, ou en tant que grands-parents, ou parrains, ou comme prêtres aussi, confrontés, je peux dire, aux questions que posent les jeunes, les adolescents, les préadolescents. Très tôt, soit ils posent des questions, soit ils n'en posent pas, mais ils sont eux-mêmes confrontés à des choses extrêmement difficiles, quelquefois... invraisemblable d'ailleurs, il y a des choses très, très graves, très mauvaises qui se passent et qu'on ne sait pas toujours. Des très petits enfants qui sont soumis à une expérience de la sexualité absolument prématurée pour eux. Il y a aussi le fait que nos enfants, ça c'est une autre question, c'est la question de la responsabilité parentale. Nos enfants sont confrontés à des images, à des représentations, à des exemples dans le domaine amoureux, dans le domaine du mariage entre guillemets ou du couple, et dans le domaine de la sexualité, des exemples qui ne sont pas des exemples pour eux ni pour nous d'ailleurs, et qui peuvent faire des ravages, même donner des idées tout à fait fausses, des contresens aussi. Et puis il y a aussi l'héritage, vous me dites si je parle trop vite ou... il y a aussi tout l'héritage pseudo-chrétien. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à dire ça sans être trop cassant. Je pense que nous, les chrétiens, ou qui prétendons être chrétiens, nous avons hérité de contresens assez importants dans le domaine du mariage, dans le domaine de la sexualité, dans beaucoup de domaines, et dans le domaine de ce qu'on va appeler l'anthropologie, c'est-à-dire la théologie de l'être humain, et particulièrement la théologie du corps, etc. Il y a quand même des idées fausses, des déformations, des contrefaçons, des sous-produits, je dirais, du christianisme, qui, aussi bien en Orient qu'en Occident, là je crois que vraiment c'est 15 partout, et ces sous-produits ont fait beaucoup de ravages aussi, soit ils ont amené les personnes à subir des situations qui n'ont pas à être subies, je pense à la condition des femmes en particulier, soit ils ont amené les personnes à se révolter définitivement contre toute forme de vie conjugal comme quelque chose dont ils ne veulent absolument pas entendre parler, tellement ils en ont une mauvaise image. Donc j'ai l'impression que la question, ce qui touche autour du mariage et de la sexualité, c'est un des sujets les plus difficiles, les plus fragiles, les plus piégés, si je peux dire, qui existent, et en même temps qui nous concernent de manière ou autre, absolument tous. Alors, ce qui est important, je pense, c'est pour ça que nous sommes là, c'est d'aborder ces sujets-là du point de vue de la foi, du point de vue de la théologie de notre Église, du point de vue de la pneumatologie de notre Église, pour ne pas dire spiritualité, vous avez compris que je trouve ce mot pas très intéressant. Donc, du point de vue de la pneumatologie de notre Église, parce que ces questions-là sont déjà abordées par d'autres, très bien d'ailleurs, avec des bases psychologiques ou des sciences humaines, donc chacun son travail, nous ne nous mêlons pas non plus de ces questions-là. Donc, si vous voulez, si ça vous paraît quand même intéressant, moi, ce que j'ai proposé, c'était de parler de ça, c'est-à-dire répondre à une question que je me pose à moi. En fait, c'est pour moi que je fais cette conférence, ça ne vous ennuie pas, parce que je suis un peu en recherche sur tout ça. Et ma question à moi-même, que je pose devant vous, que je vous prends à témoin de la question que je me pose, la question c'est, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de parler de sanctification de la sexualité dans le mariage? C'est vrai que ça paraît un gros morceau, peut-être que ça ne veut rien dire du tout, peut-être que c'est faux, peut-être que... C'est pas sûr, si vous voulez, que ça soit vraiment une chose à dire. Et donc je m'interroge. Mais toutefois, j'ai préparé plein de notes, mais on n'est pas obligé d'utiliser tout. Toutefois, je vois dans la Divine Liturgie, dans les prières de la Divine Liturgie que nous venons de prononcer ensemble, avec la meilleure attention possible et de tout notre cœur, et il y a plusieurs fois des expressions qui reviennent. En roumain, c'est Sfințirea. Sfințirea vieții, trupului și sufletului. Donc, l'idée de sanctification de la vie de l'âme et du corps, ou de sanctification de l'âme et du corps, ça revient beaucoup en fait. Il semble que c'est quand même un thème permanent des prières de l'Église. Donc, il y a bien l'idée d'une sanctification de la vie corporelle, et pas seulement de la vie spirituelle. Alors, j'ai mis dans mes notes, j'ai mis que souvent, la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité de l'âme. On parle beaucoup, les passions de l'âme, etc. Et en fait, notre spiritualité, ou notre pneumatologie plutôt, est aussi une pneumatologie du corps. Parce que l'être humain, dans l'anthropologie, on va dire globalement l'anthropologie des pères, est envisagé de manière synthétique, c'est-à-dire corps et âme, âme-corps, comme un seul tout, comme une totalité, et que donc on ne devrait pas faire trop de séparation. Et c'est vrai qu'il y a les déviations, elles sont un peu dans ce domaine-là. Le fait qu'on ait développé une pneumatologie ou une spiritualité de l'âme pendant des siècles, et qu'on ait négligé la théologie du corps, la spiritualité ou la pneumatologie du corps, comme si l'être humain était fait de deux parties, ce qui est tout à fait faux du point de vue biblique. Du point de vue biblique, l'être humain, il est créé comme un tout, âme et corps, si vous voulez, mais un tout, et surtout, il est une personne. C'est encore une autre question. Donc, si vous voulez, il faut un peu, et je crois qu'au XXe siècle, ça s'est quand même beaucoup fait, beaucoup de théologiens orthodoxes, beaucoup de spirituels orthodoxes qui se sont penchés sur ces questions-là, qui ont essayé de développer ce qu'on pouvait trouver dans la tradition des pères en ce qui concerne la pneumatologie du corps et de la vie corporelle, mais du corps avec l'âme, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on parle, on va parler un peu plus du corps qu'on ne parle pas de l'âme. En fait, c'est lié. Et en particulier, la question de la sexualité, c'est pas une question uniquement corporelle. Mais c'est une question qui concerne et le corps et l'âme, l'ensemble du composé humain. Alors, l'ensemble de la nature humaine. C'est assez important. Je vais le redire, je pense, à un moment ou à un autre, que tout de même, quand Dieu s'est incarné, très très important ça. Dieu s'est incarné, il a pris une humanité, il s'est fait homme, mais de manière sexuée. Alors vous savez qu'il y a des discussions là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent mais non, mais c'était l'androgyne, machin. Mais si on veut, c'est vrai aussi, c'est assez complexe, mais quand même dans la pratique, à Nazareth, l'homme Jésus qui se promenait dans la rue et à qui les gens parlaient, l'homme concret Jésus, c'est un être humain sexué. La mère de Dieu, c'est une personne humaine sexuée. On n'avait pas des gens... Nos références du Christ et de la mère de Dieu ne sont pas des êtres asexués. Ce ne sont pas des anges, justement. Parce que Dieu ne s'est pas fait ange. Il s'est fait homme. C'est intéressant, vous voyez. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a a priori, une valeur de la vie humaine dans tous ses aspects. Ça, c'est a priori. Si l'incarnation est vraie, et nous pensons qu'elle est vraie, nous confessons quand même, c'est notre foi, nous confessons que Dieu s'est fait homme. J'attire votre attention sur le vocabulaire, d'ailleurs. Parce que quelquefois, on entend dans certaines traductions en français, on dit « Dieu s'est incarné ». Mais je vous assure que ce terme est très suspect. Parce qu'en grec, on ne dit pas ça. On dit qu'il s'est fait chair, ou s'est fait homme. C'est assez important, ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas entré dans un être humain ou dans un corps, comme dans une espèce de boîte, mais il s'est fait homme et il s'est fait chair, ce qui est énorme. C'est absolument incompréhensible, mais c'est l'objet pour nous d'une d'une admiration et d'une louange sans fin. Sans fin. Vous voyez. Donc, ça, c'est très important. Évidemment, s'il était entré dans un corps, ça serait déjà différent. L'incarnation n'est pas une incorporation. L'incarnation, au sens propre, c'est une carnification, si vous voulez, ou une hominisation de Dieu. C'est pas. Il est devenu homme, il est devenu chair. Oui, c'est extrêmement, extrêmement concret. Donc, tous les aspects, à partir de ça, tous les aspects de la vie humaine, aussi bien de la vie intellectuelle, la vie de l'âme dans ses sentiments, l'imagination et la vie corporelle, etc. Tout ça est impliqué par l'incarnation. Bon, alors je vais me rapprocher un petit peu. Le deuxième point que je veux dire, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend maintenant par sexualité. Alors c'est vrai que la sexualité, c'est l'état sexué de l'être humain tel que Dieu le crée. Et alors vous savez qu'il y a dans la Genèse deux récits de la création, le premier et le deuxième, qui appartiennent à deux écoles de rédaction différentes. Et dans le premier récit de la création, la sexuation de l'être humain est très forte. C'est dès le début, homme et femme, il les créa. Donc ça, c'est assez important. Donc le caractère sexué de l'être humain est affirmé dans le premier récit de la Genèse de manière très nette. Dans le deuxième récit de la Genèse, c'est un petit peu différent. Il y a une création de l'être humain dans sa globalité, et après ça, une distinction du masculin et du féminin dans la nature humaine. Mais dans les deux cas, si vous voulez, on arrive quand même à des chapitres de la Genèse qui sont très très affirmatifs sur le caractère sexué de l'être humain, à la différence d'autres créatures. Il semble qu'il y ait quelque chose de privilégié. C'est intéressant, parce que quelquefois, notre sexualité est un fardeau pour nous. Mais en fait, elle était une bénédiction, figurez-vous. C'est intéressant de penser que quelque chose qui est une bénédiction peut être une telle charge, une telle croix, un tel tourment pour certains êtres. Mais quand on regarde les textes bibliques, c'est intéressant qu'en ce qui concerne les anges, il n'est pas question de sexuation. Et même en ce qui concerne les animaux, c'est très curieux, l'insistance sur mâle et femelle, il les créa, ça arrive avec l'être humain. Bien sûr qu'auparavant, on suppose la sexuation, puisqu'on parle de la multiplication, on dit que les oiseaux doivent se multiplier, etc. Mais enfin, bon, je ne crois pas que le texte biblique, je l'ai relu hier, dise « mâle et femelle, il les créa » à propos des oiseaux, à propos des poissons, à propos des souris, je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de propre à l'être humain, que la sexualité, le caractère sexuel, l'état sexué, et donc la sexualité qui en découle, j'essaie de m'exprimer clairement, est quelque chose qui est quand même très typiquement humain. Très typiquement humain. C'est intéressant, vous voyez. Et c'est souligné, alors c'est souligné parce que dans le texte, c'est vraiment très important, c'est souligné par le fait que tout de suite après, dans le texte biblique, il est dit, donc, mâle et femelle, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa. Donc il y aurait une relation profonde, incompréhensible pour nous d'ailleurs, mais ontologique, si je n'emploie pas des trop gros mots, et une relation profonde entre l'état sexué et la participation à la vie de Dieu. Il y a quelque chose qui est a priori proche de l'image, proche de la ressemblance. C'est important, c'est-à-dire la sexualité n'est pas une chose à jeter à la poubelle, à mépriser, à considérer comme répugnante, je ne sais pas quoi. Et au contraire, quelque chose qui est très très proche de Dieu, qu'il faudrait plutôt rapprocher de Dieu que d'éloigner de Dieu. Je dis ça parce que justement, dans les sous-produits du christianisme, les déviations graves et pénibles que nous avons héritées de l'histoire, aussi bien en Orient qu'en Occident, nous avons hérité d'une conception très péjorative de la vie corporelle, très souvent, de la vie sexuelle, encore plus souvent, et mesdames, les femmes que vous êtes ici, vous êtes celles qui ont le plus souffert de ça à travers l'histoire. Il y a quelque chose, on ne va pas revenir là-dessus trop longtemps, il y a quand même une pénalisation de la sexualité, une pénalisation de la femme aussi d'ailleurs, une misogynie latente dans nos cultures qui n'a aucun rapport avec la foi chrétienne. D'où est-ce que ça vient? On sait d'où ça vient, c'était très, très bien étudié, on connaît bien les origines culturelles de ça, qui ne sont en fait pas chrétiennes et qui ne sont pas bibliques en tout cas. Elles sont beaucoup plus indo-européennes, platoniciennes, stoïciennes, néo-platoniciennes, tout ce qu'on veut, mais Aristote un petit peu moins, mais en tout cas ce n'est pas biblique. Que si le christianisme reste proche de ses sources bibliques, il n'est pas dans ces déviations-là. Mais enfin, ces déviations sont quand même là. Donc chaque fois qu'on est là à dire que le christianisme donne de la valeur au corps, les gens nous regardent avec des yeux de chouette. Hein. Je sais, parce que comme j'ai le privilège d'aborder ces sujets-là souvent à la radio. Alors à la radio, je ne vois pas la tête que les gens font, mais à la télévision non plus. Mais quand je vois les gens, ils sont tout à fait surpris, parce qu'eux, ils pensent qu'a priori, les chrétiens sont des gens qui méprisent le corps et qui ont horreur de la sexualité. C'est comme ça qu'on est pris. Et même nous qui sommes chrétiens, nous avons peut-être fonctionné comme ça, peut-être que nous fonctionnons encore comme ça, peut-être que nous ne savons pas très bien quoi faire de cette sexualité, peut-être que nous n'osons pas en parler, et dire, si vous êtes honnête avec moi, je ferai remarquer qu'on n'en parle jamais. Que c'est... bon, il faut de temps en temps... comme ça, qu'il se fasse quelque chose, qu'on ose parler de sujets qu'on considère comme des sujets un peu tabous. Mais en fait, comme on en parle à l'école, et alors là on peut en parler beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans nos écoles, dans la législation actuelle, et des choses très très graves qui se font. Bon, donc les chrétiens sont obligés finalement de dire ce qui est à dire du point de vue de la foi chrétienne. Donc la première chose que nous disons, c'est quand même ça, hein, c'est quand même clair, c'est que la sexualité, ou l'état sexué et ce qui en découle, est une bénédiction. Donc, est a priori capable de sainteté, capable de sanctification, capable de transfiguration, mais qui a un potentiel qui n'est pas seulement biologique, hein, mais qui est lié à l'expérience qu'on peut faire de Dieu créateur. Donc ça, c'est vraiment assez important tout de même. Alors, je vais assez vite. Et alors, vous savez, mais je rappelle rapidement que, donc, à partir de là, pour nous, la plupart du temps, ce qu'on entend par sexuation, ben, c'est l'état de différence du masculin et du féminin, qui est un état objectif. Je le dis quand même, sans blesser personne, parce que j'ai beaucoup d'amis homosexuels, et donc qui posent beaucoup de questions dans ce domaine-là, et c'est vrai qu'avec tout le respect qu'on a pour les personnes, le chemin que ces personnes font, qu'on ne juge pas aussi, on ne peut pas, si vous voulez, s'écarter du texte biblique non plus, dans la mesure où nous suivons la Bible, nous sommes des gens de la Bible, nous avons quand même un texte assez long, une parole assez longue, qui est très nettement hétérosexuelle, nous n'y pouvons rien, si vous voulez. Mais ça n'implique pas un jugement à l'égard des personnes qui ont un chemin incompréhensible, souvent douloureux, etc. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est très nettement exprimé et qui est incontournable quand même. Donc, je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, je le dis, parce que c'est ce qu'on entend tout de même à la radio, à la télévision, dans les journaux, et c'est ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants à l'école, je vous signale, il faut que vous regardiez les nouvelles éditions qui sortent pour les enfants à l'école, on est en train de leur enseigner que la différence du masculin et du féminin, c'est purement culturel, mais que ça ne correspond pas à une vraie réalité. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on nous disons. Nous sommes quand même des gens de la Bible, nous sommes des chrétiens, et sans faire le procès des autres, nous disons quel est quand même le point de vue biblique, le point de vue judaïque aussi, et le point de vue chrétien. Alors, après ça, on va voir. Donc, cette sexualité, cette sexuation, c'est vrai qu'elle se définit quand même à notre niveau d'expérience, par deux choses, je crois, enfin, peut-être trois, mais en tout cas deux choses. L'appétit de jouissance, c'est très 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 important, le besoin de plaisir, la possibilité de plaisir, la capacité de plaisir. Et d'autre part, là j'ai distingué en deux, mais enfin, ça peut être une seule chose, le désir ou la vocation d'engendrer ou d'être engendré, la vocation de fécondité. Et ça correspond en fait au commandement. La pulsion qu'il y a en nous, hommes et femmes, cette espèce d'appel, d'énergie, d'être fécond, de féconder ou d'être fécondé, enfin d'être fécond en tout cas ensemble, ça c'est quelque chose qui correspond au commandement, parce que Dieu dit ça, il dit soyez féconds. Par conséquent, la fécondité n'est pas seulement quelque chose de biologique ou de culturel ou je sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui correspond à une énergie donnée par Dieu et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. On dit ça avec toutes les réserves et toute la délicatesse possible, sachant qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la fécondité pour une raison ou pour une autre, et qui ont l'impression qu'ils n'accomplissent pas ce commandement. Vous savez très bien que les pères spirituels nous disent toujours dans ce cas-là que ce commandement de fécondité on peut l'accomplir autrement. Par exemple, dans le monachisme, la vie monastique, une référence très très importante pour notre Église orthodoxe, comment est-ce que les moines accomplissent le commandement de fécondité? C'est une vraie question, au fond. Une vraie question. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils l'accomplissent par la paternité spirituelle. C'est que les communautés monastiques se multiplient, mais se multiplient par l'engendrement spirituel, qui est donc la façon charismatique des moines et des vierges de concevoir et d'enfanter. Donc ça, c'est assez, très très important. Ce n'est pas exactement notre sujet ici, encore que vous voyez de suite qu'il y a une sanctification de la sexualité ou de la dimension sexuelle de l'être humain, y compris dans l'état monastique et l'état virginal. Donc c'est une question extrêmement, extrêmement importante aussi. Enfin, pour ce qui est de nous, globalement, tel que nous sommes, peut-être qu'il y a peut-être des moines parmi vous, je ne sais pas, donc c'est désir de jouissance, désir d'engendrer ou féconder ou d'être fécondé, et le désir qui va avec ça, c'est le désir de connaissance, en fait. Ça, c'est très important. Pardon, je suis un peu débordé par mon sujet qui est très difficile. C'est extraordinaire de penser que la sexualité a comme finalité la jouissance, on est d'accord, la multiplication est d'accord, mais en plus la connaissance. Que dans tout appétit sexuel, il y a un appétit de connaître, et de connaître par union. C'est quelque chose qui est bouleversant d'ailleurs. C'est que je pense que dans chaque fois, alors si on revient justement au couple, dans le mystère du couple, la démarche sexuelle amoureuse, et il y a ces trois dimensions-là. Il y a la préoccupation du plaisir, pas forcément le sien, mais peut-être le plaisir de l'autre. Il n'est pas forcément égoïste, il peut être généreux dans l'expérience du plaisir amoureux. Mais il y a aussi, il y a un appel à, bien sûr, il y a la fécondité. On ne peut pas faire l'amour, comme on dit, sans penser à la possibilité d'un enfant, même s'il n'est pas directement commandé, si je peux dire. Forcément, il est potentiellement, dans toute relation sexuelle, il y a potentiellement la fécondité comme une promesse, disons, même si cette promesse n'est pas accomplie directement. Mais troisièmement, il y a le désir de connaître l'autre. On s'unit à l'autre personne dans l'acte sexuel, on s'unit à l'autre pour le connaître. Vous voyez, donc essayez de réfléchir à ça. La jouissance est une chose extrêmement importante. Là aussi, un certain héritage chrétien a pénalisé l'appétit de plaisir comme une chose absolument perverse. Et ça, c'est tout à fait étranger à la tradition juive ou patristique. Les rabbins, il y a un texte des rabbins qui dit ça, qui dit que le bonheur amoureux du couple est quelque chose qui le rapproche de la divinité. C'est quelque chose d'éminent. Ce n'est pas du tout une chose méprisable, sauf déviation, sauf égoïsme, sauf domination, sauf transformation de l'autre en objet. Mais ça, c'est le péché. Il ne faut pas partir, pour parler du couple et de la sexualité dans le couple, il ne faut pas partir de l'état déchu, il faut partir de l'état donné au départ. Parce qu'autrement, effectivement, nous avons plein de mauvais exemples horribles, nous avons plein de mauvaises expériences horribles aussi qui nous font penser mal de ces choses. Mais donc on essaie de revoir quel est en soi, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est promis et donné finalement dans le mystère même du mariage. Donc, et cette jouissance, Saint Maxime le Confesseur, qui était un moine, pas marié, il avait tendance à trouver que le monachisme était beaucoup mieux que la vie conjugale. Il y a quand même un préjugé assez fort chez lui, mais comme je l'aime beaucoup, c'est un ami, je ne veux pas en dire du mal, et Saint Maxime dit que c'est très intéressant ça, il dit que la tendance ou l'appel à la jouissance, elle est dans l'esprit. Alors ça, c'est super intéressant, parce que c'est là qu'on voit que notre anthropologie chrétienne, vous voyez, c'est pas du tout une anthropologie dualiste ou autre. Et quel est cet appétit de plaisir dans le nous de l'être humain, c'est minte en roumain, nous, l'esprit. En français, on a beaucoup de mal avec le vocabulaire. Bon. Et quel est cet appétit de jouissance? Cet appétit de jouissance, c'est une jouissance indéfinie de Dieu. C'est la béatitude des saints. l'exultation des anges, l'allégresse, c'est-à-dire cette espèce de dilatation de l'être humain dans une jouissance infinie qui n'est pas seulement corporelle, mais qui est globale. Hein, voyez. Et quand la mère de Dieu, j'aime beaucoup la mère de Dieu, comme tout le monde, la mère de Dieu dit « Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur. » Donc elle essaie de parler de tout elle-même, l'âme, l'esprit, et c'est « je » derrière ça. Donc c'est la personne de la mère de Dieu qui exprime cette jubilation, cette jouissance transfigurée, non égoïste, non passionnelle au fond, non possessive, libre de l'amour de soi, de tout ce que l'amour de soi entraîne comme déviation au fond dans l'expérience du plaisir. C'est ça le problème du plaisir, c'est que très vite il est menacé par l'amour de soi. Hein, c'est, sans parler du plaisir sexuel, même dans le domaine alimentaire par exemple. Je dis souvent parce que des jeunes gens qui me parlaient de ça, et on parle de la question du plaisir. Par exemple, la question du plaisir solitaire. Alors aussi, comment il a parlé de ça dans l'Église? Mais oui, je parle de ça dans l'Église, on est là pour ça. Or, justement, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est parce que c'est solitaire. Et que dans le domaine alimentaire, celui qui va s'acheter une tablette de chocolat et qui se la mange tout seul dans sa voiture, commet ce péché-là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il déconnecte un plaisir, une jouissance, et déconnecte de la communion des personnes. Il les déconnecte de l'amour, il les déconnecte de la générosité, mais il peut faire ça. N'importe qui peut aller chez un monoprix, je ne sais pas où, c'est ouvert jusqu'à 20h30, et s'acheter une tablette de chocolat qu'il va manger tout seul. Oui. Mais là il a le problème. Mais ce n'est pas le plaisir en lui-même, vous voyez. Ce n'est pas le plaisir en lui-même, ce n'est pas la jouissance en elle-même, qui au contraire est essentiellement communionnelle. Donc la grande aspiration à la jouissance qui est en nous, et qui s'exprime à travers notre aspiration à la jouissance sexuelle aussi, est une grande aspiration à la communion, comme j'ai dit, à la connaissance, et à la générosité, et à la fécondité, et à la ressemblance avec Dieu. Pourquoi? Parce que, ça c'est pas moi qui dis ça, c'est Saint Cyril d'Alexandrie, il dit, quand un couple, il prenait la tradition juive, parce que derrière ça il y a un enseignement juif, quand un couple s'unit et devient fécond, il est à l'image de Dieu. Il y a quelque chose dans la fécondité qui ressemble à la créativité de Dieu. Bien sûr, un couple ne crée pas les enfants, il les conçoit. Mais dans cette conception, il rejoint l'acte créateur même de Dieu. C'est pour ça que les orthodoxes eh bien, n'acceptent pas l'idée d'entrer de l'âme dans le corps après le 8e jour ou le 10e jour, ou je ne sais pas quand. Ça, c'est pas du tout notre pensée. Saint Maxime le Confesseur, encore lui, il est très net là-dessus. Il dit quand une personne nouvelle est conçue, elle est conçue totalement. Parce que Dieu l'a créée dans l'absolu, dans le principe. L'acte conjugal, l'acte sexuel, coïncide avec l'acte créateur de Dieu qui crée une personne totale à mes corps à ce moment-là. Y compris, il faut quand même le dire, dans des situations catastrophiques. Nous savons très bien que même dans les généalogies du Christ, il y a des gens qui ont été violés, il y a des violeurs, il y a des prostituées. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans des circonstances qui paraissent aberrantes. Eh bien, on ne peut pas jamais penser que leur conception, même dans un péché terrible, que leur conception ait pu être déconnectée du vouloir de Dieu qui les a créés à ce moment-là. C'est une raison pour laquelle nous ne pouvons absolument pas bénir l'avortement. Ce sont des choses extrêmement, extrêmement importantes, extrêmement, extrêmement profondes. Alors, la sanctification, il me reste pas beaucoup de temps en fait, j'ai toujours pas parlé de la sanctification, je vais dire rapidement quand même les choses, c'est que...
Oui. Je crois qu'on peut faire jusqu'à quand le baptême arrive, et après on va faire la gare profonde.
D'accord, donc qu'est-ce que je fais? Pardon,
j'ai oui. Donc vous pouvez allonger un peu. Donc alors, bien sûr, si vous êtes d'accord.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? En quoi, bah, j'en ai parlé un petit peu quand même. Ce que je vous ai dit là, c'est qu'en fait la sexuation et la sexualité, au départ, ont déjà une capacité de sainteté, sont déjà des choses qui appartiennent au salut. Alors là, ici, il y a des opinions différentes, mais la plupart des pères, comme Saint Irénée de Lyon, par exemple, dit bien que la sexualité est arrivée avant la chute. C'est très important. C'est-à-dire que la sexuation et la sexualité sont des dons du paradis. Vous voyez ? Alors qu'après ça, la sexualité ait pris des formes autres, c'est-à-dire dominée par les passions, etc., après la chute, c'est effectivement un autre problème. Ça, c'est le problème de la perversion, si vous voulez, de l'amour, de la... les déviations, du fait que nos couples ne tiennent pas toujours, enfin, etc. C'est pas parce qu'il y a tant de divorces que ça remet en question le mariage. Vous voyez, c'est. Nous, on parle ici de ce que Dieu nous donne. Alors, comment est-ce que le mot sanctification peut s'employer? Moi, je crois d'abord sur la base des textes du mariage. Je ne vais pas vous les relire. C'est Éphésiens 5 et le chapitre 2 de Saint Jean. Il faudrait avoir un petit peu plus de temps pour revoir tout ça en détail. Mais ces deux textes-là comportent en fait l'idée profonde de sanctification de la sexualité. Dans l'épître de Saint Paul, c'est le fait que l'homme, le mari, l'époux, fonctionne comme le Christ, c'est-à-dire manifeste un amour sacrificiel. Et c'est ça l'épître de Saint Paul. Et du côté de l'épouse, le fait que l'épouse elle-même manifeste un amour sacrificiel dans cette espèce d'obéissance spirituelle, de confiance spirituelle qu'elle manifeste à l'époux. Et tout ce qu'ils portent en eux est déjà transformé, transfiguré, s'ils arrivent à vivre ça. Et dans l'évangile, je vais un peu vite, hein, et dans l'évangile des noces de Cana, il y a évidemment l'idée de transformation. Transformation de l'eau en vin s'applique, si vous voulez, à tout ce que nous vivons dans notre vie de couple, et en majorité, je ne sais pas comment dire, la sexualité sous une forme ou sous une autre, ceci est promis à une transformation d'eau en vin aussi. C'est aussi quelque chose qui est à métamorphoser. Alors, donc, qu'est-ce qui se... Je ne reviens pas sur le fait que la sexualité est donnée, j'en ai parlé déjà pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que, quand même pour embrayer, le fait que la sexualité, que l'état sexué, la sexuation et la sexualité, je distingue quand même, hein, et la fécondité, nous soient donnés par Dieu, ça veut dire qu'elle ne nous appartient pas. Alors que ça commence à devenir peut-être un peu plus exigeant, la sexualité ne nous appartient pas. Elle nous est confiée, elle est donnée par Dieu au paradis, elle est donnée par Dieu pour lui être rendue et offerte dans une dimension eucharistique. C'est comme, vous savez, regardez, là, nous venons de célébrer la liturgie, qu'est-ce qui se passe, hein? Dieu donne les graines, on va dire le blé, etc. On prend le blé, on fait de la farine, avec la farine on fait du pain, et ce pain on l'apporte à Dieu, mais quand on lui apporte, on lui rend. On lui rend ce qu'il nous a donné. On lui rend déjà sous une forme transformée, qui est la forme du pain. Et lui, après ça, il le consacre en lui-même, et il nous le rend à nouveau pour qu'on y communie. Et donc ce mouvement d'aller-retour, c'est très 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 important. C'est surtout les théologiens roumains, Père Staniloé, qui ont insisté là-dessus, sur la dimension eucharistique de l'existence humaine. Donc notre usage de la sexualité dans le couple est un usage qui est relatif à l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous demandons à tous, garçons et filles, de garder la virginité jusqu'au mariage. Parce que c'est dans le mariage qu'on rejoint le moment paradisiaque où la sexualité nous est donnée. En fait, le couple, dans le mariage, il reçoit la grâce de la vie conjugale et il la reçoit de Dieu dans le sacrement. Vous voyez, alors que le fait de faire toutes sortes d'expériences sexuelles en dehors du mariage et avant le mariage, ça veut dire qu'on s'approprie quelque chose, qu'on prend quelque chose, qu'on se sert. Mais il y a une différence entre se servir et recevoir. Le mariage est paradisiaque, parce que c'est dans au paradis qu'on reçoit la vie, qu'on reçoit le fait d'être homme et femme, qu'on reçoit le commandement de fécondité et qu'on reçoit la bénédiction pour la vie conjugale dans son ensemble. Donc elle est reçue de Dieu et comme nous sommes... les êtres humains, nous avons été institués comme des prêtres au paradis. Donc l'activité sacerdotale de l'être humain consiste à consacrer, à offrir, à sanctifier et à distribuer et à multiplier. Donc la sexualité est éminemment eucharistique parce que justement elle s'exprime finalement au bout du compte en générosité, en multiplication, pas seulement des êtres, mais multiplication des biens qui sont dans le couple. Alors, donc, si vous voulez, notre sexualité, dès le départ, en fait, elle est consacrée à Dieu, elle n'est pas à nous. Je peux me l'approprier, mais ça, c'est l'esprit du monde. Nous sommes dans un contexte où chacun dit, autour de nous, dans la société dans laquelle je vis tous les jours comme vous, qu'est-ce qu'on entend dire ? On entend dire que chacun dispose de soi. Je dispose de mes pensées, je dispose de mon corps, je dispose de ma sexualité, je dispose de mon sexe, comme disent nos amis. je dépose de, dispose de mon ventre, comme disent certains femmes. Enfin, chacun dispose de soi. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Chacun se sert et profite de soi, des autres. On dispose des autres aussi, d'ailleurs. L'homme dispose de la femme dispose de l'homme. Enfin, je ne sais pas, oui, ça n'a aucun rapport avec ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné une situation dans laquelle on se sert, on prend et on est dans la disposition de soi, mais on est dans une situation où on lui appartient, où nous sommes reçus de lui, je me reçois de lui, bien sûr, dans l'autonomie, mais m'étant reçu de lui, quelque part je lui appartiens, il est le donateur de moi-même, et je lui reconnais. Là, le service du mariage est en grande partie un office d'action de grâce, dans lequel les couples remercient Dieu du don qu'il leur a fait, de l'amour, d'être homme et femme, et c'est un don d'être homme et femme, et oui, et de la fécondité, et du mariage. On remercie, vous voyez. Et ça, c'est la vie sacerdotale. Donc, la consécration, bien, ça va de fait. Qu'est-ce que c'est consacrer? Quand je dis je me consacre à quelque chose, c'est-à-dire je ne suis qu'à cette chose-là. Mais dans le couple, il y a une consécration. La sexualité, elle est consacrée à Dieu. Finalement, elle vient de Dieu, elle est à Dieu. Il nous la propose, il nous la confie pour que nous la gérions. Mais elle est consacrée aussi l'un à l'autre. L'apôtre Paul qui parle de ça, il dit que l'époux appartient à l'épouse et l'épouse appartient à l'époux. Mais il en parle à propos des relations conjugales. Hein. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'époux, à partir du moment où tu es marié, tu ne disposes pas de toi et tu ne disposes pas de ta sexualité. Bon, ce qui effectivement pose, bien sûr, la question de l'adultère d'une manière ou d'une autre, mais même l'adultère en pensée dont le Christ a parlé est une erreur parce que c'est une manière de disposer de la sexualité, même en pensée, d'en disposer de manière autonome, comme ça, alors que cette sexualité est un don de Dieu qui doit être rendu à Dieu et qui est à lui. Vous voyez ? Bon, donc il y a beaucoup d'aspects comme ça. La virginité elle-même est un état de consécration et non pas un moins. Ça, c'est très important. C'est la Mère de Dieu qui nous a appris cela, que la virginité, c'est l'état de consécration sacerdotale en vue de la fécondité. En vue de la fécondité, en vue des noces. C'est pas du tout un état, négatif. Hein. C'est un état d'intense liberté. À lire les pères, c'est très intéressant. Les pères grecs, à propos de la virginité, ils parlent de exousia. Alors, exousia en Grèce, ça veut dire capacité, pouvoir et liberté. Le Vierge ou la Vierge sont des gens qui sont dans toute la liberté, mais liberté, c'est pas la liberté pour la liberté, c'est liberté de quoi ? D'accueillir Dieu, d'accueillir l'amour véritable, de construire quelque chose sur la volonté de Dieu, mais c'est une disponibilité absolue pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que les temps de préparation au mariage pour les plus jeunes d'entre nous, et c'est un temps dans lequel on va valoriser ça, on va dire l'état dans lequel vous êtes, l'état virginal dans lequel vous êtes, c'est un état qui est magnifique, qui est un état royal, mais qui est quand même un état de préparation, vous préparez à communier à l'amour que Dieu va vous donne et va continuer à vous donner. Alors là, ce qui sanctifie quand même, bon, on va avancer un peu, ce qui sanctifie vraiment la sexualité dans le couple, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quand même premièrement la prière. Premièrement, la prière, c'est la prière du sacrement, puisque vous savez que dans le sacrement orthodoxe, c'est très très particulier, c'est pour ça que nous tenons beaucoup, si vous voulez, à nos célébrations orthodoxes, il y a ce qu'on appelle une épiclèse. L'épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit sur les dons. Dans la Sainte Liturgie, les prêtres, avec le peuple d'ailleurs, enfin nous tous, les prêtres en tête, invoquons la grâce du Saint-Esprit sur le pain et le vin qui sont présentés, et nous supplions Dieu de les transformer en son corps et en son sang. Faisons ça quand même. Et dans le mariage, il y a quelque chose d'analogue, c'est que les prêtres invoquent l'Esprit-Saint sur l'amour du couple et demandent aussi cette transformation, cette déification, cette sanctification, de transformer l'amour du couple en amour du Christ et de son Église. Ce sont des choses assez extraordinaires, ça nous dépasse complètement, vous voyez. La barre est très très haut, mais si vous voulez, l'intérêt d'être chrétien, c'est justement d'avoir accès à un domaine de connaissance absolument supérieur. Or ça, que le couple puisse être transformé en mystère de l'Église, c'est ce qui se passe dans le saint mariage. Donc la prière, mais pas seulement cela, hein. Il faudrait regarder la prière aussi des époux l'un pour l'autre, hein. La prière des époux ensemble devant Dieu, enfin, tout ce qui est du registre, la prière pour les enfants, la prière avec les enfants, tout ceci contribue à sanctifier, à approfondir le caractère consacré de la sexualité et sa sanctification. Ensuite, avec derrière ça les beaux textes de notre Église qui disent quand même que votre corps est le temple de l'Esprit, quand même. Donc si ton corps, si notre corps est le temple de l'Esprit, c'est-à-dire que ce qui va être agi par mon corps, en particulier dans le domaine sexuel, ça a un rapport avec la vie de l'Esprit, ça ne peut pas être déconnecté. Vous voyez, l'idée d'une autonomie de la vie sexuelle par rapport à la foi, ou d'une autonomie de la vie sexuelle par rapport à l'Esprit-Saint, ça, ce n'est pas du tout chrétien, ce n'est pas juif du tout non plus. Donc, si vous relisez dans la Bible l'histoire de Tobie, que Tobie, avant de s'unir à son épouse, qu'ils font ? Ils prient quand même, vous voyez. C'est étonnant, ça. C'est-à-dire que l'acte sexuel... La relation sexuelle, la communion sexuelle, cette communion conjugale, elle est soumise à la prière, vous voyez, c'est très important. Donc si tous les groupes chrétiens avaient pour ça comme demandé à leur père spirituel la bénédiction pour avoir cette règle-là, en disant de ne jamais faire l'amour sans avoir prié avant, ce serait peut-être pas mal, vous voyez. C'est quand même des choses assez pratiques. Il y a quand même un mode de vie familial, conjugal, oui, tout de même, il y a les icônes dans la chambre des époux. Il y a le Christ, il y a la Mère de Dieu, il y a l'Évangile, il y a les saints. Si on est de dire, voilà, bénis-nous. Il y a des très belles prières pour les époux qui existent, où les époux disent à Dieu, renouvelle en nous la grâce de l'amour conjugal, donne-nous un amour généreux, donne-nous de ne pas nous approcher de l'un de l'autre dans un égoïsme et dans l'impureté. C'est très beau. Il fait d'ailleurs, du point de vue de la relation elle-même, une relation beaucoup plus profonde, beaucoup bien meilleure, bien plus douce, bien plus tendre, bien plus généreuse, bien plus expressive de l'amour. Oui. Et par exemple aussi, ne jamais faire l'amour si on s'est disputé, si on ne s'est pas réconcilié. Ça, c'est un péché très grave. Oui. C'est pas possible. Moi, j'ai des amis, beaucoup d'amis mariés qui me parlent de ça. Ils me disent, voilà, on s'est chamaillé tel soir, on a fait l'amour après. Je me dis, tu rêves, hein. Tu rêves, tu oses faire ça. Oui, c'est hallucinant. Ça, c'est des choses très très graves. Et ça détruit le couple. Hein. À court ou à long terme, c'est comme de communier au corps et au sang du Christ sans avoir confessé ses péchés, sans avoir demandé pardon les uns aux autres. Vous savez, le Christ dit ça. Il dit, avant d'apporter ton offrande, va trouver ton frère s'il a quelque chose contre toi et demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec ton frère, tu viendras apporter ton offrande après. Alors ça retarde beaucoup, la liturgie, quelquefois, elle commence une demi-heure en retard. Parce que tant que tu as été demandé pardon à tous les gens à qui tu as mal parlé, ou par téléphone. Moi, je dis aux gens, prends le téléphone. Je dis, je peux pas. Tu téléphones aussi, prends le téléphone. Non, je t'attends. Alors, il va téléphoner à quelqu'un qui l'a offensé. Il revient, me dit, bon, je vais parler au téléphone, il me pardonne. Je dis, t'es sûr ? Oui. Bon, allez, on commence. Une demi-heure en retard. Mais c'est la même chose. Et tu ne peux pas accomplir le mystère de Dieu en état de division. Et alors les couples, une personne qui m'a dit, oui, mais justement, c'est meilleur de se réconcilier. Non. Ça, je peux te dire que ce n'est pas vrai du tout. Après, tu te réconcilies avant, tu fais l'amour après. Et s'il n'y a pas réconciliation, eh bien on jeûne, figurez-vous. On se passera, on dit non, si on est des gens sérieux, c'est vraiment des chrétiens, on dira à Dieu, ben écoute, accorde-nous un esprit de réconciliation. Mais tant que cet esprit de réconciliation n'a pas été donné, comment voulez-vous qu'on s'aime ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors on arrive à des relations sexuelles qui sont déconnectées du mystère, et ça, c'est le péché, vous voyez. Très intéressant. Le péché, c'est pas de faire l'amour, Dieu sait. C'est de faire l'amour sans amour. Ah. C'est-à-dire des relations sexuelles mécaniques, automatiques, obligatoires, etc. Ça détruit les couples à travers l'histoire. C'est-à-dire l'amour sans amour. C'est prendre la prostitution. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la question de la prostitution. J'ai eu des amis prostitués, beaucoup. Je connais un peu. C'est un milieu assez spécial quand même, et très, très arrogant d'ailleurs, avec il y a des victimes, mais il y a aussi des profiteurs et des profiteuses, il y a un peu de tout, bon. Mais le fond du problème, c'est que la prostitution, c'est un exercice de la faculté sexuelle sans amour. Sans amour. Et même en payant plus cher, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour n'a pas de prix, donc tu peux payer ce que tu veux. Contrairement à la différence des publicités, parce que moi je reçois, j'ai un téléphone comme tout le monde, je reçois des publicités invraisemblables, mais qui sont intéressantes. Parce que moi, j'ai reçu hier encore, sans payer, tu peux rencontrer un tel. On propose, mais en fait, ce n'est pas vrai. Même gratuitement, une relation de prostitution sera sans amour. À moins qu'on tombe vraiment amoureux l'un de l'autre, c'est autre chose. À ce moment, on arrête, on dit, je change de vie, je t'épouse. C'est arrivé dans l'histoire. Mais vous voyez le lien entre la relation sexuelle et l'amour, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ça que dit la tradition juive et chrétienne, fondamentalement. Donc vous voyez, il y a quand même des règles, hein. Il y a quand même une discipline, il y a quand même une ascèse aussi. Ben oui, par exemple, on a parlé tout à l'heure avec nos amis, il y a quand même dans notre Église orthodoxe qui est particulièrement riche dans ce domaine, c'est exceptionnel. Nous avons un patrimoine dans le domaine de la théologie du mariage, la théologie de la sexualité, que j'effleure à peine aujourd'hui, juste pour vous faire attendre la gaffe. Hein. Donc il y a énormément, beaucoup plus. Or, il y a une dimension ascétique. Vous savez que nos anciens nous proposent de nous abstenir de vie conjugale certains jours de la semaine, mercredi et vendredi, les jours de jeûne, également pendant les carèmes, ou la veille du jour où on va prendre l'Eucharistie. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une pénalisation de la sexualité, c'est une valorisation de la sexualité, justement. Vous voyez, c'est justement parce que c'est important que pendant 40 jours, on le met entre parenthèses, parce qu'au bout de 40 jours, on se libère ainsi des habitudes sexuelles, des servitudes sexuelles, il y en a, des dominations, toutes les formes d'asservissement. Il y a une servitude sexuelle. Tout le monde sait ça. Hein, on peut être asservi à l'alcool, on peut être asservi au tabac, on peut être dépendant, mais il y a une dépendance sexuelle. Et il y a une dépendance sexuelle dans le couple. Ça peut arriver, c'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Et les grandes périodes de jeûne comme ça sont des bénédictions. Parce qu'elles permettent à l'être humain, à l'homme et à la femme, de sortir de la dépendance sexuelle et de retrouver l'amour. Vous voyez ? Ça, c'est très très important. Donc cette dimension ascétique, je dis, parce qu'il y a peut-être des moines ou des futurs moines parmi vous, j'espère, parce que quand même le charisme monastique est indispensable à la vie de l'Église, il n'y a pas que le charisme conjugal, eh bien il y a finalement dans la vie conjugale quelque chose qui ressemble beaucoup à la vie monastique. C'est-à-dire que l'ascèse a sa place pour gérer la grâce. Je suis très content de ma formule, je vais la redire parce que j'ai bien parlé là. Le rôle de l'ascèse, c'est la gestion de la grâce. Et que la grâce est une énergie que Dieu nous donne et qu'il faut développer, faire fructifier, cultiver, faire grandir, ne pas abîmer, épanouir. Donc si la grâce du Saint-Mariage, la grâce de s'aimer sexuellement aussi, est donnée par Dieu, ça va s'épanouir si on le cultive. Mais on ne le cultive pas dans la consommation, on le cultive dans l'ascèse, dans le respect, en apprenant à se respecter. Moi, je connais un couple, c'est très beau, parce que l'un des deux a dit à l'autre, « Alors, je demande pardon, on a fait l'amour hier soir, mais franchement, j'étais égoïste, j'ai pensé qu'à moi. » C'est beau, ça, quand même, vous voyez. Des gens qui sont assez intelligents, assez conscients pour se rendre compte qu'ils ont mal fait. Ce n'était pas le fait de faire l'amour qui était mal, c'était de mal faire, égoïstement, de manière consommer l'autre, vous voyez. Et il a pu demander pardon à ça, c'est beau, quand même, vous voyez. Ça veut dire que l'être humain est très, 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 très intelligent. L'être humain est exceptionnel. Seul l'être humain est à l'image de Dieu. Seul un être humain peut avoir une telle conscience que dans l'acte sexuel lui-même, il est tombé dans l'amour de soi, l'égoïsme, la gourmandise. Et ça dévie. Hein, ça ressemble beaucoup, hein, à ce qu'on vit sur le plan sexuel. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit sur le plan alimentaire. C'est vite. On sort vite de la dimension eucharistique pour tomber dans la dimension de gourmandise, d'avarice, de gloutonnerie, de possessivité. Ça dévie assez vite. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des agapes après, mais bon. Donc, ça c'est très important, l'ascèse. L'amour lui-même, il faut quand même savoir que si on a spiritualité orthodoxe, qu'est-ce qui est le centre de l'être humain ? C'est le cœur. Et je vais très vite là-dessus, mais c'est très très important, c'est le cœur qui est la source de toute la vie. C'est à partir du cœur que se fait l'organisation et la sanctification de tout le corps, tout ce qui est corporel, tout ce qui est psychique. Donc, si un couple vit avec une certaine pureté de cœur et avec un amour dans le cœur, un vrai amour dans le cœur, tout ce qu'il va faire sera saint. Vous comprenez ? Et à l'inverse, des époux qui ne sont pas purs de cœur et qui n'ont pas d'amour véritable dans le cœur, eh bien leur sexualité sera impure. Vous voyez ? C'est pour ça que je disais, d'ailleurs, l'histoire de réconciliation avant de s'aimer, c'est fondamental, ça. Et ça veut dire que le cœur a sa place. Il retrouve l'amour, il retrouve la pureté, il retrouve la virginité aussi. C'est très important, la virginité. La virginité, ce n'est pas seulement un état corporel, physiologique, à un certain moment de notre vie, c'est un état intérieur dont nous avons besoin, qui est vital absolument pour l'être humain, qu'il faut retrouver de temps en temps, justement. Donc, l'amour, mais l'amour, la tendresse, le sacrifice de soi, des conjoints l'un pour l'autre, vous savez, si vous avez l'expérience de la vie de couple, c'est quand même beaucoup ça, hein, c'est se sacrifier pour l'autre, pas parce qu'il faut, pas parce qu'on doit, pas par obligation, mais par amour. se sacrifier pour autrui par amour. Ça, c'est le Christ. Hein. C'est-à-dire vivre le Christ à la maison, vivre le Christ dans la chambre conjugale aussi. Le Christ est là. Si le Christ n'est pas présent dans une chambre conjugale, il ne faut rien faire du tout. Ça veut dire qu'on aurait honte. Mais non, tout ce qu'on fait, on le fait devant le Christ, avec la bénédiction du Christ. Et c'est le corps du Christ qui est là aussi. Parce que le corps des époux qui se rencontrent dans l'acte sexuel, c'est quand même, ce sont quand même des corps qui appartiennent au corps. C'est quand même des membres du corps du Christ. Donc cet amour sexuel et conjugal, il se fait dans le corps du Christ, par le corps du Christ, et sanctifié par les énergies qui circulent dans le corps du Christ quand même. Ce sont quand même des gens qui communient au corps et au sang du Christ. Ce sont des gens qui ont reçu l'onction du Saint-Crème, qui sont baptisés. Ce ne sont pas des corps bruts. Ce ne sont pas des corps objets qui s'unissent dans l'amour chrétien. Ce sont des corps déjà sanctifiés par leur incorporation au corps du Christ. C'est très profond. Il y a quelque chose de sacramentel. On ne coupe pas les choses, nous, les orthodoxes. Tout est profondément lié, en l'occurrence, au mystère du corps du Christ. Il y a un côté sacramentel, si vous voulez, dans l'amour conjugal pour cette raison-là. Donc l'amour très important et l'amour qui finalement transfigure. Parce qu'il faut quand même dire aussi que la sexualité telle que nous l'exerçons au début de notre vie, c'est-à-dire très proche de la sexualité animale, au fond très fonctionnelle, si je peux dire, progressivement ça se dépasse. Ça se dépasse, ça se transfigure. Il y a les moments de carême, il y a la maladie, il y a l'absence, il y a l'âge et il y a la mort. À la mort. Or, l'amour, lui, survit à la mort. Donc, c'est vrai que la sexualité, elle est quand même donnée pour ce temps. Elle a sa valeur, elle a ses limites, mais que dans le royaume des cieux, comme dit le Christ en Saint-Marc, dans le royaume des cieux, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est autre chose. Vous voyez, il y a quand même un dépassement qui n'est pas méprisant, si vous voulez, mais il y a un dépassement, une transcendance de la personne sur la nature, une transfiguration de la sexualité en amour. Tout ce qui était amour dans la sexualité va régner. La vie sexuelle, la sexualité aura été le chemin de l'amour, vers plus d'amour, et elle sera couronnée par l'amour. Et c'est très bien comme ça, et c'est sans frustration, sans regret, vous voyez quelque chose. Le signe de la transfiguration, c'est justement la joie. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'on est dans la frustration et que rien n'est transfiguré. Hein. Le christianisme ne propose pas la frustration, il propose la transfiguration. C'est quand même tout à fait autre chose. Hein. Bon. Les saints ne sont pas des frustrés. Regardez leurs icônes, ils n'ont pas l'air d'être frustrés, nos saints. Ils ont l'air épanouis. Il y a d'autres choses qui sanctifient qui sanctifie la sexualité, c'est la communion des personnes. Parce qu'au départ, Dieu a donné l'état sexuel et la sexualité, il l'a donné à des hommes et femmes qui portaient des noms. Ce n'étaient pas des anonymes, c'était un certain Adam et une certaine Ève, qui sont pris pas seulement comme des noms de nature, Adam ça veut dire l'homme de la terre, je sais très bien, merci, mais c'est aussi des noms de personnes. Et Ève, c'est un nom de personne. Donc ce sont des personnes qui s'unissent, ce sont des personnes qui s'aiment. Et ça, c'est fondamental aussi, c'est ça qui transfigure l'amour, qui en fait autre chose qu'un exercice de l'animalité, même si c'est quand même une forme animale qui nous a été donnée pour la fécondité. Ça, je pense que réordonner, ça a quand même raison, quelque part. Que la façon dont nous connaissons, nous, la vie sexuelle, n'est probablement liée à l'état de chute, quand même. Elle est liée à la préoccupation de la mort. Mais en tout cas, même ça, si vous voulez, ce qui rend cette sexualité, qui est quand même animale, à certains égards, ce qui la rend sainte, c'est qu'elle est encastrée, elle est insérée, elle est imbriquée dans une communion des personnes, toi, moi, des gens qui s'aiment. Donc quand on a parlé de l'amour, on n'a pas parlé de l'amour abstrait, on a parlé de l'amour impersonnel, c'est-à-dire de l'amour trinitaire. Vous avez ici l'icône du Père, enfin, de l'hospitalité d'Abraham, enfin, qui est globalement le signe de la Trinité. L'amour pour nous, chrétiens et gens de la Bible déjà, mais surtout chrétiens, c'est l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la communion des personnes. Donc quand il y a communion des personnes, il y a amour trinitaire, et il y a sanctification de ce qui est partagé dans l'amour, que ce soit le plaisir sexuel ou que ce soit autre chose. Il y a tout ce qui est dans la communion du couple est sanctifié de la même façon. Et alors, la fécondité elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est une forme de sanctification de la sexualité, même si, alors c'est très important, notre Église ne justifie pas la sexualité par la fécondité. Ça, c'est encore un truc dévié. Hein. côté, la fécondité est là pour, ça pour, oui, ça pour justifier la sexualité. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Dans notre liturgie de mariage, on voit très bien que le contraire est dit. La sexualité est l'expression de l'amour, mais il se trouve que l'expression de l'amour est couronnée par la fécondité dans les meilleurs des cas. Et alors, c'est l'accomplissement d'un commandement, comme j'ai dit. C'est pour ça que c'est une sanctification. Ça, c'est très important. Autre chose, l'hospitalité, la générosité, l'aumône du couple. Eh bien, figurez-vous que ça dérive aussi de la sexualité, parce que ça dérive de l'amour du couple. Et l'amour du couple, il se manifeste dans la fécondité, puisqu'il produit des enfants avec Dieu, mais aussi parce qu'il donne de son bien, parce qu'il donne aux pauvres, parce qu'il donne du temps, parce qu'il accueille dans la maison. Donc l'aumône, ça vous paraît peut-être bizarre, mais l'aumône est une manifestation de la sainteté du couple, et donc de la sainteté de ce que vit le couple. Un couple qui s'aime vraiment, et qui s'aime sexuellement vraiment aussi, est un couple qui sera généreux aussi avec son argent et avec les pauvres. Vous voyez, c'est une dilatation de la sexualité. C'est très vaste, le concept de sexualité. C'est pas uniquement organique. C'est très, très vaste. La notion d'éros ou de libido, c'est très, très vaste. Ça englobe toute notre vie mystique, en fait. Bon, donc ça, l'hospitalité, et je termine là-dessus, l'unicité. Alors ça, excusez-moi, on est obligé d'insister, non pas parce qu'il faut, pour être conforme à notre Église, mais parce que le caractère unique du couple, si possible, on ne porte aucun jugement, on sait ce que c'est, comme c'est difficile de rester marié, on sait, on n'est pas meilleur que les autres, mais il n'empêche que l'unicité, c'est-à-dire le caractère unique de la relation sexuelle, contribue à la sanctification. Pourquoi ? Parce que ça donne à la sexualité un caractère d'éternité. Ça donne à la sexualité un caractère d'absolu. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît ce garçon, cette fille, comme le premier qu'il connaît, la première fille qu'il connaît, le premier garçon qu'il connaît, il ne connaît la sexualité que par cette personne-là. Il ne connaît le plaisir sexuel que par cette personne-là. Donc quelque chose qui est absolu. C'est comme s'il recevait la sexualité non seulement de Dieu, mais de cette personne-là. Alors que c'est vrai que, quand nous avons l'expérience d'autres personnes, ça affecte la mémoire. Et on n'aurait même pas le droit, d'ailleurs, de nier. Mais ce n'est pas possible d'avoir, par exemple, vécu, j'ai des amis, je peux parler avec mes amis, si vous voulez, un garçon qui vit avec une fille pendant 3-4 ans, après ça, qui va vivre avec une autre fille pendant et après ça, une troisième, je lui dis, mais attends, où est-ce qu'elles sont, toutes ces copines ? Elles sont quand même dans ta mémoire. Tu ne peux pas les oublier, tu n'as pas le droit de les oublier. Parce que ce que tu as vécu avec elles, c'est tellement important. C'est tellement important. Mais tu as vécu ces choses tellement importantes avec celle-là, après ça avec celle-là, après avec une autre. Tu te disperses. Tu te disperses et ta mémoire est chargée. Et tu ne connais pas le fait de ne connaître justement la sexualité que de telle personne unique. C'est extrêmement important. Le caractère unique. Vous savez que on l'exige, on essaie de le demander à tous, vraiment courageusement, disons, on n'a pas encore baissé les bras sur ce truc-là. L'Église orthodoxe n'en va pas tellement baisser les bras, on va essayer de trouver à expliquer les choses de manière plus intéressante et plus tonique et plus enthousiasmante, mais on ne va pas baisser les bras. Donc vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit ? La prière, l'ascèse, l'amour, la communion, la fécondité, l'hospitalité, l'unicité. L'unicité du couple, ceci contribue à la sanctification. Il y a bien d'autres choses que je n'ai pas dites, évidemment. Et surtout le fait que, donc dans la relation sexuelle, il y a quelque chose qui est très très fort, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est la relation à la mort. C'est quelque chose qui est incontournable. Il y a beaucoup d'écrivains, des poètes qui ont exprimé ça, la relation entre l'éros et la mort. Mais dans le contexte chrétien, le contexte de foi chrétienne, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas une relation à la mort, c'est une relation à la résurrection. Donc ce corps, ton corps, mon corps, nos corps, etc., ne sont pas des corps simplement pour la mort, mais sont des corps pour la résurrection. Donc, vous savez, c'est quand même assez important, ça aussi. Imaginez comment un couple, par exemple, se retrouve conjugalement à Pâques, par exemple. Bon, alors, donc, ils ont communié, ils ont reçu l'onction, ils continuent à communier, ils continuent à être en relation, voilà le baptême, en relation avec un corps ressuscitant, un corps qui ressuscitera. Dans l'amour, il y a aussi ça, c'est « tu ressusciteras ». Vous voyez, c'est que je fais l'amour avec quelqu'un dont le corps qui ressuscitera globalement en tant que personne. Donc ça, c'est extrêmement profond. Vous voyez, la profondeur, ça donne même à la relation sexuelle, de penser que, qu'il y a dans la relation sexuelle quelque chose qui est illuminé par le projet de résurrection. Je vous dis ça pour qu'on sorte complètement, et j'arrête après, qu'on sorte complètement d'un contexte que je constate, moi, comme prêtre et comme pasteur, un contexte dans lequel les gens ont la vie religieuse à l'Église, et après ça, la vie privée, dont la sexualité, qui ne regarde pas Dieu, comme on dit. Et ça, c'est... Bon, je veux bien, mais on peut dire ce qu'on veut, si, mais c'est faux. C'est faux. Alors c'est vrai que le rôle des pères spirituels en particulier est de nous aider dans ce domaine-là, mais avec forcément beaucoup de discrétion. Mais dans notre Église orthodoxe, c'est vrai que, je le vois par la pratique, souvent on demande aux pères spirituels un peu des conseils dans ce domaine-là. Moi je ne sais pas, je suis souvent sollicité des gens qui me disent « Écoute, on a vraiment du mal, mon mari ne comprend pas que, ou ma femme ne comprend pas que. » Enfin, il y a des douleurs hein, dans les relations sexuelles dans le couple, hein, soit par trop peu, parce qu'il y a des maladresses, parce que l'un n'attend pas l'autre. Et bon, et donc, il y a quand même une demande. Et le rôle du père spirituel, c'est d'aider justement les personnes à évangéliser la sexualité, à sanctifier la sexualité, et on les accompagner aussi. Au moment du mariage, nous tournons autour de l'Évangile, mais le prêtre tourne avec les époux, il ne leur dit pas « Bon, maintenant, c'est votre affaire privée, nous, les prêtres, on a fait notre boulot, vous tournez tout seuls, tous les deux, devant l'Évangile. » Ce n'est pas vrai, ça. Il tourne avec eux et avec les témoins. Donc, ça veut dire qu'autour du couple et de ce qu'il vit, c'est-à-dire d'une manière très, très, très importante de la sexualité, il y a quand même le prêtre, il y a quand même les témoins, des gens avec qui on peut partager, on peut se faire aider, on peut demander la prière, on peut demander des conseils. On peut demander pardon aussi, vous voyez, il y a beaucoup de choses. La sexualité doit sortir aussi de son domaine privatisé, qui est faux. Je suis sûr que c'est un piège de Satan, ça. Tu commences à cacher quelque chose à Dieu, ça peut pas être de Dieu. Vous voyez. Adam et Ève au paradis, c'est intéressant, il y a un moment, ils ont caché leur sexualité, justement. Qu'est-ce qu'ils ont sur leur sexe, ils ont mis des feuilles, ils ont trouvé des superbes feuilles de... C'est pas des figuiers, je crois. Hein. Alors ça... C'est n'importe quoi, mais c'est très intéressant. Mais c'est n'importe quoi, ça veut dire que tu vas vivre ta sexualité en la cachant de Dieu. Cacher son sexe à Dieu, mais c'est pas où on va, vous voyez. Or, c'est quand même ce qui se fait très souvent et très fréquemment, c'est que notre sexualité est souvent déconnectée de la vie spirituelle. Or, tout ceci est saint. Je vous dirais juste une chose pour terminer. Saint Siméon, le nouveau théologien, en parlant du corps de l'être humain, il dit « Tous les membres de mon corps sont le Christ incorporé. » Il dit « Même mon pénis. » C'est-à-dire que même le sexe de la femme, le sexe de l'homme, ne sont pas détachés du corps comme une chose sale. Ils font partie du corps et ils sont également incorporés au corps du Christ. Voilà, on peut m'arrêter là-dessus, parce que c'est l'heure de l'agape. Oui, je m'en parle, mais c'est uniquement oui, un début de ma propre réflexion. Je souhaite beaucoup continuer ça, en fait.
Un chapitre sur la migraine aussi. La migraine.
Ça vous donne la migraine?
La classer dans toute cette architecture-là.
J'entends extrêmement mal, mais...
Le mal de tête.
Mais à vous, vous avez mal à la tête?
Non, mais...
Dans la sexualité. Mais j'ai dû, pour ceux qui auraient effectivement un problème de migraine, j'ai du Doliprane dans mon sac. Hein.
Je vous félicite pour le courage que vous avez eu de discuter sur ce thème. C'est un thème philosophique, religieux, et qui la fécondité a un seul rôle de procréer. D'après moi, vous avez une culture vaste de ce point de vue. Quelle est la différence entre l'homme et les animaux?
C'est quand même... Oui.
Les animaux ont des périodes pour faire l'amour. Mais entre homme et un animal, la différence c'est le cerveau. Même si les animaux et les hommes ont des cerveaux, mais le cerveau fait la différence. Alors, la fécondité, donc, c'est pour la procréation. Donc, c'est pas pour autre chose. Quand Adam a été fait par le Dieu, on lui a apporté la femme d'une certaine façon, une explication. Mais ils ont procréé. Et les autres aussi ont fait. Oui. Après ça, on peut procréer. plus tard. Maintenant, il y a quelque chose depuis 30 ans, il y a beaucoup de femmes porteuses. Dans cette discussion philosophique, comment on apprécie les femmes porteuses? Il faut que, parce que j'ai jamais lu quelque part que les femmes porteuses sont des parties de l'humanité qui doivent être exclues du monde religieux. Je ne veux pas m'arrêter parce que vous avez traité beaucoup de choses.
Oui, pardon.
Ce que vous avez dit, il fallait le noter pour pouvoir le discuter. Je m'arrête ici pour vous dire que je vous félicite pour le courage que vous avez eu de traiter ce thème.
Oui, il faudrait au moins une année. Hein, mais c'est vrai que la question du courage, je vous remercie parce que je ne m'attribue pas ça, si vous voulez, mais je pense que notre Église orthodoxe Dieu lui demande ça, lui demande d'être courageuse. C'est notre relation à la modernité, c'est-à-dire au monde dans lequel nous vivons, elle est très souvent difficile, mais si Dieu nous donne du courage, elle est facile. Parce que quand on a du courage, on se rend compte que finalement l'Église a quelque chose à dire. On n'est pas en panne d'enseignement, on n'est pas en panne de sagesse.
Merci à tous pour la patience. Je propose...